en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Monsieur le Chancelier, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, je dirais d'abord quelques mots sur la vie de Cournot, qui ne vous est peut-être pas familière. Antoine-Augustin Cournot, à l'époque, on utilise le second prénom, Augustin. 1801-1877 est un mathématicien, un économiste et un philosophe. Il naît à Gré, en Haute-Saône. Il sort du collège à 15 ans, en spécifiant qu'il n'a pas le baccalauréat S-lettres, même s'il a le prix d'excellence et le prix de mathématiques. Il passe 4 ans à ce qu'il appelle des niaiseries. On ne sait pas ce qu'il a fait. Et à 19 ans, il se dit quand même qu'il faut reprendre des études. Il va à Besançon et prépare en un an le concours de Normale Sciences où il est reçu premier, en 1821. L'école est fermée en 1822. En 1822-23, il suit les cours de mathématiques à la Sorbonne et ne se considérera jamais comme un mathématicien créatif, tant le génie de son camarade Gustave Dirichlet l'impressionne. En 1823, il devient le précepteur de Laurent-François Gouvion-Saint-Cyr, qui est un petit garçon de 8 ans, fils du maréchal Gouvion-Saint-Cyr. Il est aussi son secrétaire et ami et l'aide à rédiger ses mémoires. Poisson, qui est le grand maître des mathématiques à l'époque, le remarque. Le maréchal meurt en 1830 et Cournot quitte la famille en 1833. Il accepte, ça paraît extraordinaire à l'époque, d'être nommé professeur dans une université de province. Il est nommé professeur de mathématiques à la faculté de Lyon, où il passe un an, en 34-35, puis à la faculté de Grenoble, où il passe 3 ans, tout en étant recteur de l'Académie de Grenoble. Il devient ensuite inspecteur général des études, sillonne la France avec un autre inspecteur général des études, Charles Alexandre, qui est connu pour avoir publié un grand dictionnaire de grec. Pendant 15 ans, il participe au concours de l'agrégation de mathématiques, il en est le président pendant 14 ans, et à partir de 54 jusqu'en 62, il termine sa carrière de haut fonctionnaire comme recteur de l'Académie de Dijon. Il est d'une grande liberté d'esprit. Quand il est recteur en Bourgogne, il donne l'ordre aux inspecteurs d'Académie qui doivent faire rapport au préfet sur l'état d'esprit des enseignants de répondre qu'il n'y a rien à signaler. Et comme les ministres, quand même, de temps en temps, le rappellent à l'ordre, il répond que la Bourgogne est une région tranquille et comme oubliée de l'histoire, et ce qui paraît un miracle pour nous, il n'est jamais renvoyé. Alors, il a défini les sciences morales et politiques dans un livre qu'il a publié il y a exactement 150 ans, des institutions d'instruction publique en France. Il écrit « La politique et la philosophie sont d'accord pour grouper, pour rassembler sous le même point de vue toutes les institutions qui concourent à éclairer les hommes, à avancer l'esprit humain, à accroître les conquêtes de l'intelligence, à seconder l'essor de la civilisation, à conserver la gloire intellectuelle du pays. Non seulement les écoles, les établissements d'enseignement public de tous les degrés, mais les académies, les sociétés savantes, créés ou patronnés par l'État, les publications littéraires et scientifiques, les grandes collections, les observatoires et les laboratoires entretenus pour le progrès des sciences, tout cela, aux yeux du politique, comme à ceux du philosophe, fait partie de l'instruction publique lato sensu. Comme le thème retenu par notre président est les sciences morales et politiques aujourd'hui, je tâcherai de préciser ce cas d'actuel la conception que se fait Cournot du domaine moral et politique. Je ne dis pas des sciences morales et politiques, nous allons voir pourquoi. Car il ne pense pas que le domaine dans son ensemble puisse devenir scientifique. Je retiendrai 7 points. Le premier, c'est que les crises rénovatrices des sciences sont les seules crises rénovatrices de la philosophie. Deuxièmement, que l'action humaine change la Terre et peut l'altérer irréversiblement. Trois, que la nature n'est pas saturée, on peut y introduire des corps et des processus nouveaux. Quatre, que le hasard n'est pas seulement le corrélat de notre ignorance, mais qu'il est constitutif de l'univers. Cinq, l'exploration scientifique de l'univers, pour Cournot, se réalise en recourant à des clés de décryptement successives, de plus en plus pénétrantes et englobantes, et les changements de clés constituent ce qu'il appelle des révolutions scientifiques. L'expression « révolution scientifique » date du milieu du XVIIIe siècle. Sixième point, les institutions, en particulier celles de l'instruction publique, ont un double statut. À court terme, elles sont administratives. À long terme, elles modèlent la vie sociale et sont politiques. Et enfin, et M. Trichet nous en a parlé à plusieurs reprises, il y a une différence entre décider en temps ordinaire et décider en temps de crise. Je reprends ces points. Tout d'abord, les crises qui rénovent la philosophie, c'est les grands changements des sciences. Il dit ceci, nous soutiendrons que les crises rénovatrices des sciences ont été les seules crises utilement rénovatrices de la philosophie. Que si, par exemple, la philosophie du XVIIe siècle a rompu d'une manière éclatante, pour le profit réel de l'esprit humain, avec les vieilleries, alors ça ne paraîtrait pas très bien aujourd'hui, les vieilleries alexandrines, juives, arabes et scolastiques, elle le doit aux étonnants progrès des sciences dans ce siècle mémorable, où les philosophes de haut vol étaient en même temps des génies scientifiques de premier ordre, des Descartes, des Pascal, des Newton et des Leibniz. Et il va donner tout de suite des contre-exemples. Il dit « la Révolution et l'Empire n'ont pas changé grand-chose, au moins en Franche-Comté et en Bourgogne, à la vie quotidienne. C'est la Révolution industrielle qui change le corps social. » Il écrit « la ruine de la noblesse et du clergé n'avait pas amené de grands changements dans les habitudes et les conditions propres aux diverses couches du tiers-État. L'agriculture, le commerce reprenaient ou continuaient de suivre les anciens errements. Fortune, gages, salaires, valeur des biens et des denrées n'avaient éprouvé que des variations insignifiantes si on les compare aux changements opérés sous nos yeux qui accuse les conditions toutes nouvelles dans la distribution de la propriété, dans les rapports des diverses classes entre elles, dans tout ce qui tient à la structure économique et à la composition intime du cœur social. » Il ajoute, parlant de la Révolution et de l'Empire, « la crise politique et les guerres terribles qu'elle a suscitées n'ont fait que retarder de quelques années la découverte ou la propagation de tant d'inventions capitales qui, à tout coup, sont venues donner à l'industrie et au commerce, à la population et à la richesse publique, un essor inconnu aux âges précédents. » Deuxième point, les effets de l'action humaine sur la nature. Il est l'un des premiers à discerner que l'action humaine modifie la Terre et peut l'altérer irréversiblement. Il dit la dévorer. On voit naître l'idée de la responsabilité de chaque génération à l'égard des générations suivantes, idée que développeront un siècle après Cournot, Hans Jonas, Karl Otto Appel et le mouvement écologique contemporain. Le statut de l'homme se modifie donc et il écrit « de roi de la création qu'il était ou qu'il croyait être, l'homme est monté ou descendu, comme il plaira de l'entendre, au rôle de concessionnaire d'une planète. Cournot n'a pas en tête la démographie, mais l'industrie. Il note « L'homme avait à faire valoir un domaine. Il a une mine à exploiter et ces quelques mots suffisent pour indiquer sous quelle face nouvelle vont désormais se présenter les plus graves problèmes de l'économie sociale ainsi que les conditions de la vie historique des peuples. » Alors, ces changements s'opèrent selon des causes régulières, mais il s'y ajoute des événements fortuits. Par exemple, dans le développement de l'Ouest américain, la part du hasard consiste dans la découverte inattendue de tous ces placères, de tous ces énormes dépôts de roches aurifères. Troisièmement, la non-saturation de la nature. Cournot est l'un des premiers penseurs à comprendre l'importance de la synthèse chimique. En 1872, mais le livre est achevé avant la guerre de 70, il écrit, il évoque la prodigieuse multitude de corps que le chimiste crée, la nature ayant oublié de les faire, dit-il. Et dans Matérialisme, Vitalisme, Rationalisme, 3 ans plus tard, en 1875, il note, de là une fabrique incessante de corps nouveaux que la nature n'avait pas pris la peine de créer. Le quatrième point important dans la philosophie de Cournot, c'est sa conception du hasard. Pour lui, le hasard n'est pas le corrélat de notre ignorance, il est constitutif de l'univers. Cournot est conscient de la difficulté qu'il y a à admettre cette conception du réel. Il observe qu'il faut attendre le milieu du XVIIe siècle pour que débute, avec Pascal et Fermat, la domestication mathématique du hasard, alors que les mathématiques de l'Antiquité comportent des théories plus complexes que l'étude des loteries et des jeux de hasard. Cournot n'a pas vraiment innové dans la théorie mathématique des probabilités. Et d'ailleurs, quand Poisson pense qu'il va être un grand mathématicien très novateur, il dit que ça a été une erreur de la part de M. Poisson. En revanche, il rompt avec l'interprétation du calcul des probabilités que l'on trouve chez Laplace. Le hasard, au lieu de n'être que le reflet de notre ignorance, devient une idée opérante dans l'histoire de la nature. Son rôle est sensible dans l'ordre physico-chimique, il devient majeur dans l'ordre de la vie. C'est assez curieux, Cournot, on s'aperçoit que dès le début des années 1860, c'est-à-dire un an après la publication de L'origine des espèces de Darwin, Cournot le commente et il ne commet jamais aucune erreur d'interprétation, m'ont dit les spécialistes de Darwin. Cournot considère que l'univers est formé de petits mondes qui peuvent rester séparés très longtemps et qui interfèrent, produisant des événements irréductibles. Alors que pour l'essentiel, Auguste Comte reste fidèle à Laplace en mécanique céleste et n'impute pas au hasard la constitution graduelle d'un univers ordonné, Cournot propose une cosmogonie physique où la naissance d'un ordre régulier, je le cite, résulte de ce qu'il appelle une combinaison singulière, c'est-à-dire aléatoire, d'éléments matériels sous l'effet des lois de Newton. Autrement dit, la matière obéit aux lois de Newton, mais il faut que un agrégat de matière de façon aléatoire se concrétise de façon à ce qu'apparaisse, à partir du désordre initial, une mise en ordre de l'univers. Alors, la pensée de Cournot a été décisive dans le domaine de la cosmogonie physique et dans le domaine de l'étude de la vie. Par contre, il ne semble pas avoir eu conscience de l'introduction du hasard dans la mécanique statistique qui se constitue alors en Angleterre avec Maxwell, puis en Autriche avec Boltzmann. Cournot évoque le rôle des probabilités en astronomie dans sa traduction du traité d'astronomie de John Herschel au début des années 1830 et dans un livre qu'il écrit à la fin de sa vie, Matérialisme, Vitalisme, Rationalisme, en 1875. Dans la première œuvre, le hasard est lié essentiellement au calcul d'erreurs. Dans le second, les probabilités servent à rendre intelligible le passage du désordre à l'ordre dans l'univers. L'idée de hasard ne s'oppose pas chez Cournot à celle de relation causale. Elle désigne le fait que dans la nature, la rencontre de séries causales d'abord indépendantes fait émerger des phénomènes d'un type nouveau que l'on appelle fortuit. Monsieur Béchler me reprochait de ne pas parler du timé. Eh bien, je peux quand même le faire, parce que dans le timé 34C, Platon dit « Nous sommes faits pour la plus grande part d'éléments fortuits, il est donc pardonnable que nous parlions au hasard. » Ce que je fais. L'idée, la cosmogonie va être ponctué d'événements fortuits, et de même, dans l'histoire naturelle des êtres vivants, il n'y a pas de relation entre la reproduction d'un côté et la sélection naturelle de l'autre. Cournot va comprendre l'importance des découvertes de Darwin. Il va le critiquer au point de vue mathématique, en disant que Darwin traite des probabilités comme s'il s'agissait dans la nature d'événements logiquement indépendants, alors que tout s'enchaîne dans le temps. En revanche, il doute que l'histoire et l'action, bien que reposant sur un socle physico-chimique et biologique, puissent entrer complètement dans le domaine des sciences. Il pense en effet que les individus ont dans l'action un rôle majeur. Alors, voyons le cinquième point, les révolutions scientifiques et le réalisme. Au début du XIXe siècle, le positivisme, comme attention aux lois de la nature et non aux causes des phénomènes, n'est pas un choix dogmatique. En effet, on ne sait pas de façon certaine quelle est, par exemple, la nature de la chaleur. C'est pourquoi il paraît judicieux de dissocier la recherche des lois, qui s'avère possible, de la recherche des causes, qui paraît incertaine. Ainsi, dans le discours préliminaire de sa théorie analytique de la chaleur, publié en 1822, Joseph Fourier, pour qui Auguste Comte a la plus grande admiration, déclare « Les causes primordiales ne nous sont point connues, mais elles sont assujetties à des lois simples et constantes, que l'on peut découvrir par l'observation et dont l'étude est l'objet de la philosophie naturelle, c'est-à-dire de la physique. Or, à partir du premier tiers du siècle, une révolution chimique s'amorce. Le pari du réalisme cesse d'être une utopie, puisqu'il devient possible de reproduire par art les productions de la nature, de reproduire des processus causaux. Auguste Comte ne semble pas avoir été si attentif à la portée de cette révolution. Cournot, lui, voit qu'elle ôte à la mécanique classique sa suprématie et fait émerger la chimie comme une discipline d'un type nouveau. Alors, le réalisme, au sens de Cournot, avait des sources religieuses bibliques que les pères cappadociens au IVe siècle, Basile de Césarée et son frère Grégoire de Nice, avait considéré. Mais la chimie de synthèse permet de substituer à ce réalisme d'inspiration religieuse un réalisme fondé sur la science elle-même. Cette évolution de la chimie met à bas l'un des dogmes de la philosophie d'Auguste Comte, qui, dans la 28e leçon du cours de philosophie positive, déclarait « Toute hypothèse scientifique doit exclusivement porter sur les lois des phénomènes et jamais sur leur mode de production. » Si, comme le déclare en 1860 Marcellin Berthelot, la chimie crée son objet, alors le positivisme de Comte cesse de s'imposer comme la seule philosophie des sciences possible, et l'idée d'un réalisme, mais nous allons voir en quel sens, qu'à Cournot paraît tenable. Voyons maintenant le sixième point par lequel il reste notre contemporain, sa conception de l'administration et de la politique. Cournot centre sa réflexion morale et politique sur l'action. Il distingue deux espèces d'actions collectives, l'administration et la politique. Dans la première, les actions sont répétables, demandent du bon sens, on peut les codifier. Dans la seconde, elles sont singulières, exigent de l'invention et souvent s'improvisent, si bien que l'histoire ne fournit pas de modèle à imiter. Alors, l'instruction publique, pour Cournot, participe de ces deux registres. En tant qu'administration, elle a un côté répétitif et elle repose sur le bon sens. En tant qu'institution politique, elle influe sur les mœurs, exerce sur la société des effets à long terme. Et la difficulté, c'est donc de combiner harmonieusement les deux faces administratives et politiques de l'action. Et Cournot, dans son livre « Des institutions d'instruction publique en France », en donne de nombreux exemples, à commencer par la fameuse grande maladie du baccalauréat, dont nous ne sommes pas sortis. Ainsi, en science comme en politique, agir exige à la fois de l'invention, d'où l'importance attachée à l'individu et à la psychologie, et du tact, d'où la nécessité de comprendre les institutions et l'histoire. En décrivant la double face individuelle et collective de l'agir, Cournot va introduire une psychologie ancrée dans la biologie. Elle ne fait pas partie des sciences existantes. Là-dessus, il partage tout à fait la même idée qu'Auguste Comte, mais plutôt des sciences qu'il sera peut-être possible de constituer. Par là, il anticipe le retour de la psychologie au sein des sciences de la nature et de l'homme que nous aurons à examiner dans quelques semaines. Alors, Cournot est très connu à cause de son approche mathématique de la décision. Il est persuadé, en effet, qu'il faut clarifier, autant que faire se peut, les choix économiques. Il s'inscrit dans la grande tradition des mathématiques sociales, illustrée en France par Fermat, Pascal, Pierre de Montmort, le premier qui ait démontré sur un cas particulier que l'équilibre dans le duel ne relevait pas de la psychologie, mais pouvait se traiter mathématiquement. Montmort était un personnage très particulier. Il était si amoureux de sa femme qu'il ne voulait pas aller à Versailles, et alors il invitait des mathématiciens chez lui. Donc, Pierre de Montmort, Borda, Condorcet, Laplace, Poisson, etc. Et ses recherches mathématiques sur la théorie des richesses, publiées en 1838, et dont Jean Tirole a parlé dans son livre consacré à la théorie des jeux, qu'il a écrit avec Fudenberg, fait de lui peut-être le principal fondateur de l'économie mathématique. Les Anglais, d'ailleurs, l'avaient repéré immédiatement, mais ils avaient dit « c'est trop calé en mathématiques, c'est pas mûr pour les économistes de l'époque, c'est pas la peine d'en parler ». La constitution, et alors Cournot fait une remarque très particulière, il dit « la constitution de la science ne suit pas le même ordre temporel que l'action. La première, c'est-à-dire la science, part de situations simples et fictives pour s'approcher graduellement par enrichissement progressif des conditions de la vie réelle. La seconde, en revanche, est d'emblée complexe. De ce fait, il est quasi impossible que des modèles mathématiques représentent fidèlement l'action politique. En effet, parmi les éléments que le décideur doit prendre en compte, il en est qu'il sent, et je crois, monsieur le secrétaire perpétuel, que le sens premier de nous, l'intelligence, c'est le flair. Sans pouvoir les élever au concept. Pour cette raison, la tradition française, et monsieur Denoy de Saint-Marc me l'a confirmé, dispense le responsable d'expliquer dans tous les cas les motifs de sa décision, non pas du tout par goût du secret, mais parce que les raisons d'un choix ne sont pas toutes exprimables en mots. Enfin, le dernier point par lequel Cournot est notre contemporain, c'est ce qu'il dit de la distinction entre l'action ordinaire et l'action en temps de crise. Pour comprendre la conception que se fait Cournot de l'action en temps de crise, il faut partir de ses rencontres chez le maréchal Gouvion-Saint-Cyr avec des soldats de la Révolution et de l'Empire et de ses conversations avec l'auteur des mémoires pour servir à l'histoire de l'armée du Rhin et de Rhin et Moselle, pour servir à l'histoire du consulat et de l'Empire. En effet, le maréchal Gouvion-Saint-Cyr disait que de toutes les batailles auxquelles il avait participé, une seule s'était déroulée conformément au plan. Autrement dit, les actions humaines, le plus souvent, doivent être improvisées. Alors, pour Cournot, il existe deux sortes d'actions improvisées. Celles que l'autorité instituée est capable de conduire et celles que l'autorité instituée se révèle incapable de gérer. Et il y a crise quand les institutions administratives et politiques ordinaires, les rouages institutionnels, ne fonctionnent plus. Il faut alors inventer une stratégie et substituer aux agents défaillants de nouveaux agents. Or, depuis les lois de Platon au moins, on sait que si une entité politique est incapable de se donner un but unique, elle est condamnée à l'errance et à l'échec. Le choix de la stratégie est donc essentiel. On sait aussi depuis l'Antiquité que la stratégie, c'est non seulement l'art de définir un but, mais l'art de trouver le meilleur chemin pour régresser du but qu'on aperçoit vers l'état où l'on se trouve présentement. Cournot a exploré les situations où l'action stratégique peut être définie en termes scientifiques dans ses recherches mathématiques sur la théorie des richesses, il a vu aussi qu'il y a des situations où il faut décider sans pouvoir céder de modèles existants. C'est la situation où se trouve le politique en temps de crise. D'où la question qui se pose, que peut-on savoir scientifiquement des agents individuels et collectifs, et est-ce que la psychologie est une science ? Cournot constate, comme le fera Freud à la fin du XIXe siècle, que la biologie est trop peu avancée pour nous instruire sur le fonctionnement du cerveau. On peut espérer que la psychologie deviendra un jour scientifique, mais pour l'instant, Cournot, dans ses inspections, trouve que l'enseignement de la psychologie, tel qu'il a pu le voir pendant des années comme inspecteur général des études, est assez mauvaise. Et avec Bernard, nous avons eu à passer le certificat de psychologie. Je ne suis pas sûr que c'était beaucoup mieux, mais enfin bon. Alors il dit, il faudra bien du temps et des efforts pour que la psychologie comme la médecine ait pu être ramenée à une forme vraiment scientifique, et quand même l'esprit humain ne devrait jamais être en mesure d'opérer cette réduction, il ne s'ensuivrait pas que le précepte de l'oracle, connais-toi toi-même, fût un précepte vain, car la science n'est que l'une des formes de la gnose ou du savoir dans la plus large acception du mot. Cournot, pas plus que Comte, ne croit que l'introspection puisse devenir scientifique. Il privilégie l'observation indirecte, celle qui se fait à travers l'histoire. Il souscrirais tout à fait à ce que dit Comte dans la 45e leçon du cours de philosophie positive concernant l'utilité d'une physiologie phrénologique dont Auguste Comte ajoute qu'elle est entièrement à faire. Il partage aussi le même avis sur Victor Cousin. La psychologie empirique ou d'observation restera donc probablement longtemps au niveau de l'art, mais nous verrons qu'il n'est pas du tout impossible qu'elle prenne une forme scientifique, et nous le verrons en examinant les neurosciences notamment. En conclusion, Cournot fut un grand analyste de la marche des idées et des événements dans les temps modernes. Je reprends le titre d'un de ses ouvrages. Il brosse l'histoire inachevée à travers l'astronomie, la mécanique, la chimie, l'histoire naturelle, la biologie, les sciences sociales, de ses approches de plus en plus pénétrantes du réel. C'est à la lumière de cette histoire que le statut non scientifique de la politique se manifeste à ses yeux. Alors, l'œuvre de Cournot s'inscrit dans le double effort scientifique du XIXe siècle, la modélisation mathématique des comportements sociaux, les enquêtes statistiques. Alors, tous les grands mathématiciens français de la fin du XVIIIe et du début du XIXe ont tous écrit un texte sur le vote à la pluralité des voix en raison de la mode du jury, et ils se sont préoccupés de savoir si le nombre des jurés importait, si c'était au contraire la nature de la majorité ou la recherche de l'unanimité, etc. Tous sont écrits. Ces travaux statistiques en Bourgogne appartiennent au second registre. Quand il fut recteur de l'Académie de Dijon, de 1854 à 1862, il a conduit des études statistiques qui restent un modèle du genre. Ma femme, sortant de la London School of Economics, on lui a demandé de regarder ce que ça valait au point de vue scientifique, et dans un jury que présidait Henri Guiton, elle a montré que ces statistiques étaient excellentes. Elles sont en même temps terriblement émouvantes, parce qu'on se rend compte que, par exemple, dans un département comme la Nièvre, si les récoltes sont mauvaises une année, on voit le nombre d'enfants en classe diminuer de 10 à 15%, parfois davantage. Et tout ça, c'est finalement très, très, très étonnant. Alors, la dernière question sur laquelle je voudrais venir, c'est pourquoi n'a-t-il pas connu la gloire ? Alors, Cournot avait une intelligence exceptionnelle du monde tel qu'il va, et pourtant, bien qu'il ait été lu, cité, utilisé, pillé même, il ne figure ni dans le panthéon des sciences, ni dans le panthéon de la philosophie. Pourquoi ? Alors, sans doute n'a-t-il pas été servi par son tempérament. Il dit lui-même qu'il était conservateur de nature et révolutionnaire par raison, alors que les intellectuels, en général, sont souvent révolutionnaires en idées, mais conservateurs en pratique. Ensuite, c'était un provincial qui n'avait pas de réseau. Il n'a pas eu de public universitaire philosophique et scientifique, sauf pendant 3 ans, de 1834 ans. Il était un haut fonctionnaire, un inspecteur général et un recteur, non un professeur. Il n'a été élu ni à l'Académie des sciences, ni à l'Académie des sciences morales et politiques. Il a failli l'être, paraît-il, mais bon, on s'y est pris un peu tard. En outre, il n'est pas sûr qu'il ait aimé les transformations de la façon de voyager, de produire, de commercer. Il les a mieux comprises que ses contemporains, mais sans s'en réjouir. Et en économie mathématique, quand il a innové, il ne s'est pas aperçu qu'il était génial. En outre, il était critique sur la France, qui, disait-il, a rarement de bons gouvernements. Et alors, il pensait qu'il ne fallait pas du tout en accuser l'histoire, mais que certainement, c'était un pays choisi les gouvernants qui lui conviennent ou qui lui ressemblent. Il pensait que ça ne marchait pas très bien. Il pensait aussi que les institutions universitaires en France ne marchaient pas bien et que ça c'était le drame s'était produit au XVIe siècle et que la Révolution et l'Empire, même en mettant par terre toutes les institutions pour les refaire, il dit dans ses souvenirs, 50 ans après, il dit « il n'y a que des essais avortés, ça n'a rien donné finalement ». Donc, il n'était pas d'une gaieté extraordinaire. Mais surtout, c'est un penseur difficile. Sa conception du hasard n'est pas simple à comprendre, son réalisme non plus. Sa conception des révolutions scientifiques est plus profonde que celle de Thomas Kuhn, mais c'est cette dernière qui l'a emporté. Il dit que les probabilités ont toujours eu du mal à être admises. Il est plus facile, en effet, pour un croyant, et Cournot l'était très probablement, de penser que la Providence règle tout, que d'admettre que le Créateur introduit de la contingence dans l'univers et que nous y sommes assujettis. Je pense qu'il voyait la création se continuer en Dieu, comme Grégoire de Nyssa, qui dit que la création de l'univers est improvisée par la puissance divine. Aposcediat zeta, je le dis pour notre secrétaire perpétuel, aposcediat zeta et pos ectisis hypotesteias dynameos. Je m'arrête là.
Cette magnifique présentation de Cournot et réflexion sur son grand apport. Nous n'avons pas aujourd'hui élu un seul académicien. Nous venons d'élire avec retard, grâce à vous, ce cher Cournot. Je vais donner la parole d'abord à M. Alain Besançon.
Merci, M. le Président. Cette conférence était pour moi de lait et de miel. Enfin, j'étais complètement subjugué par tout ce que j'apprenais. Et je ne sais pas si j'avais la force de poser des questions. La première question que je voulais poser, vous y avez répondu en conclusion, c'est Cournot, le philosophe inconnu de la France. Nous avons eu, à la fin du XVIIIe, un Claude de Saint-Martin qui se déclarait le philosophe inconnu. Il méritait d'être inconnu, parce que c'est un illuministe d'un dernier étage. Mais là, voilà, nous avons un des plus grands philosophes de la France, et qui est très peu connu. Mais je me souviens que la thèse de Raymond Aron commence par « On suppose connu les œuvres complètes de Cournot ». La philosophie de Cournot. Et moi, j'ai dû attendre votre beau livre, cher Bertrand, pour prendre une vision panoramique de Cournot. Bon, alors la question positive que je voudrais poser, c'est au sujet de cette sous-estimation du politique et de la surestimation peut-être des processus industriels et économiques. Alors là, ça fait de Cournot quand même quelqu'un qui a lu Saint-Simon. Hein, et manifestement, ça c'est le...
Il connaît les Anglais aussi.
Et les Anglais. Voilà. La non-saturation, alors là, c'est un thème que j'ai souvent vu dans vos propres écrits et dans votre histoire de la science que vous avez présenté aussi avec d'autres. C'est effectivement un thème d'une portée métaphysique, mais comme vous l'avez dit très bien, je crois que ce n'est pas la peine de vous poser cette question, ainsi que le hasard qui, dans les deux ensemble, la non-saturation et le hasard, imagine effectivement un monde beaucoup plus dynamique que le monde médiéval ou encore que le monde d'Auguste Comte. Merci.
Merci. Monsieur Thierry de Montbrial.
Malgré les dernières paroles de Bertrand Saint-Sernin, je ne vais pas poser la question en latin. Ou en grec, oui. Mais j'ai fait exprès pour voir la réaction. En fait, je voudrais 5 points très rapidement. La première, vous y avez un peu répondu à la fin, mais vous avez dit au début les changements de clé. J'étais dans les révolutions scientifiques. Alors évidemment, on pense tout de suite à Kuhn, mais vous avez dit à la fin que la pensée de Cournot était plus profonde que celle de Kuhn. Et je voulais vous demander si ce sujet, justement, a été exploré et creusé, parce qu'on a tous, en tout cas ma génération, a travaillé sur la structure des révolutions scientifiques, mais en effet, Cournot n'est très rarement mentionné là-dessus. Alors, le deuxième point, celui sur lequel je voudrais insister un peu plus, c'est la question du hasard. Alors, vous avez dit qu'il n'avait pas beaucoup, s'est beaucoup intéressé à la mécanique statistique, au fondement de la mécanique statistique, sans doute était-il excusable, mais là, c'est pas tellement le hasard, finalement, c'est la statistique, mais on ne touche pas là au fondement du hasard. En revanche, et il ne pouvait pas, évidemment, non plus anticiper cette forme de hasard déterministe, si je puis dire, qui a été découvert au début du XXe siècle par point carré, avec les non-linéarités, ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet papillon. Mais est-ce qu'il a... Alors, sa définition fondamentale que vous avez citée au passage sur la rencontre de séries causales indépendantes, aujourd'hui, dans la définition des probabilités... à la suite de Kolmogorov, enfin, les travaux fondamentalement du XXe siècle, font totalement abstraction, bien sûr, de la notion de temps, même si ensuite on peut utiliser les probabilités pour introduire le temps. Et donc abstraction aussi de la notion de cause. D'ailleurs, vous avez mentionné aussi la dissociation entre la recherche des lois et la recherche des causes. Alors, ma question, c'est est-ce que, au-delà de ces réflexions bien connues sur la rencontre de séries causales indépendantes, il a été jusqu'à une définition plus profonde, une recherche plus profonde, et de la notion de probabilité, indépendante, encore une fois, de toute notion de temps ou de causalité. Troisième point, sur la notion de l'action et des actions répétables et non répétables. Alors, traduit en termes d'économie mathématique ou autre, c'est la distinction aussi entre tactique et stratégie. Les tactiques sont d'ordre répétable, les stratégies sont toujours uniques, parce qu'il s'agit toujours de faire face à une situation unique. Donc il y a une certaine... Or, les probabilités s'appliquent aux répétables, les probabilités ne s'appliquent pas aux situations uniques. Et pourtant, on a développé au XXe siècle la notion de probabilité subjective, dans laquelle d'ailleurs s'est distingué Keynes, entre autres, avant von Neumann et Morgenstern, etc. Alors, ma question sur ce point précis, c'est est-ce que dans l'œuvre de Cournot, vous voyez les prémices d'une théorie subjective des probabilités qui serait donc susceptible, au moins rationnellement, de s'appliquer à des situations uniques ? Quatrième, et je l'ai presque fini... vous avez beaucoup insisté sur le fait que les sciences morales et politiques ne pouvaient pas être vraiment domaine plutôt, à cause finalement de l'incertitude radicale. Alors, dans l'incertitude radicale, on pense évidemment à la mécanique quantique, qui évidemment ne pouvait pas anticiper. Mais dans l'ordre humain, on pense aussi à ces notions d'intuition, de coup d'œil, qui sont centrales chez tous les grands penseurs de la stratégie, comme Clausewitz, par exemple, puisque c'est tout à fait central. Alors, est-ce qu'il y a chez Cournot des réflexions un peu élaborées sur la notion d'intuition ou de coup d'œil dans le vocabulaire de la stratégie ? Et puis, je voudrais terminer par une brève réflexion sur la gloire de Cournot, ou la non-gloire de Cournot. Il y a une certaine gloire, puisqu'on en parle aujourd'hui, qu'on l'a élu membre de l'Académie. Mais permettez-moi de vous dire que je pense à Maurice Allais, que je suis peut-être, enfin l'un de ceux, peut-être avec Jean-Claude Casanova, qui l'ont le mieux connu ici. Mais Maurice Allais n'a jamais connu vraiment la gloire, même s'il a eu le prix Nobel, et Jean-Claude Casanova sait aussi bien que moi, je crois que nous sommes tous les deux, nous connaissons intimement l'histoire de son prix Nobel en particulier, mais aujourd'hui encore, son œuvre reste radicalement méconnue. Et son œuvre reste radicalement méconnue, en partie pour les raisons que vous avez dites de Cournot, c'est-à-dire parce qu'elles sont très difficiles d'accès, peut-être même plus difficiles d'accès d'ailleurs que Cournot. et parce qu'il n'a jamais mené non plus de stratégie de type universitaire, etc., ce qui serait aussi tout un domaine de réflexion. Et je suggère un jour, pour une communication à l'Académie des sciences morales et politiques, le sujet « Comment accède-t-on à la gloire ?»
Merci.
En président d'IFRI. Oui. En président d'IFRI.
Bien. Monsieur Pitt.
Merci, Monsieur le Président. Vous avez dit, cher recteur, que les idées de Cournot sont annonciatrices du mouvement écologique contemporain, parce que Cournot croyait que l'homme est capable de dégrader la planète. Mais je crois qu'il y a une grande différence, parce que Cournot croyait dans le sens des responsabilités de l'humanité, alors que les écologues, les écologistes actuels n'y croient pas. Ils sont persuadés que la planète se dégrade et que nous devons revenir à la lampe à huile et qu'ils refusent la croissance à la fois démographique, technique, économique. Donc ce sont des véritables cathares, au sens théologique du terme, totalement négateur de la place de l'homme dans l'environnement. J'ai pas l'impression que Cournot était de cette patte-là.
Merci. Je crois que M. Pébreau. Oui.
Merci, M. le Président. J'ai aussi été fasciné par cette présentation de Cournot, qui n'a pas la gloire qu'il mérite. Je voulais poser deux questions un peu ésotérique. La première est relative à la question de gloire qui a été évoquée. Je voulais vous demander, cher confrère, si vous ne pensez pas que la décision qu'il a prise lorsqu'il a décidé de faire des études, de s'orienter vers l'école normale plutôt que vers l'école polytechnique, compte tenu des zones d'intérêt qui étaient les siennes, n'est pas susceptible d'expliquer sa difficulté à faire entendre sa voix. Ma deuxième question était relative aux actions répétables et des actions non répétables. Et là, ma question était, dans ce domaine, est-ce que quelque chose chez Cournot peut donner à penser qu'il y a une relation entre l'analyse qu'il fait du lien action répétable tactique, action non répétable stratégie et le jugement qu'il porte sur les hommes politiques français.
Merci. Monsieur Tirole.
Oui, je voulais insister sur la modernité de Cournot qui me semble ressortir de votre exposé. Alors certes, Cournot était dans un environnement absolument remarquable. Vous avez mentionné les mathématiciens qui, dans l'école française des années fin du XVIIIe siècle jusqu'aux années 30, c'est Poisson, etc. Et évidemment, tous les gens qui ont commencé les sciences sociales, hein, Borda, Condorcet, tous ces gens-là, et puis quelques années plus après Cournot, Dupuis, qui aussi devrait être mentionné. Mais c'est quand même très intéressant parce que quand on lit son petit livre de 1838 que vous avez mentionné, il y a quand même trois innovations majeures. La première, c'est sans doute le premier exemple clair de l'équipe de Nash. L'équipe de Nash, c'est simplement que chaque joueur joue au mieux de ses intérêts, étant donné ce que font les autres. C'est quand même pas quelque chose de très compliqué, mais c'est quand même lui qui a clarifié le concept. Après, ça a été développé mathématiquement de façon bien supérieure à Cournot, mais enfin, quand même, il avait l'idée. Deuxième innovation, il avait quand même étudié le problème des ententes avec des biens substituables, ce qui est quand même à l'origine de toute l'analyse moderne du droit de la concurrence, les ententes, les articles 81 du droit européen, etc. Donc c'est quand même tout à fait important, en montrant bien comment ça pouvait faire monter les prix. Ce qui est peut-être moins connu, c'est qu'il avait aussi étudié les ententes et les biens complémentaires. Donc pour les biens complémentaires, c'est-à-dire quand on a besoin de plusieurs biens pour bénéficier de chaque, là, c'est le contraire. Les ententes font baisser les prix tout en augmentant les profits. Bon, les biens complémentaires, c'est évidemment, par exemple, quand on commence à diviser le Rhin en tronçons et qu'on a 10 péages au lieu d'un, ben, le prix total est beaucoup plus élevé que si on avait un monopole. Et ça a des conséquences gigantesques pour beaucoup de choses. Ils anticipaient, bien sûr, la tragédie des communs. Mais aussi, je reprends le droit de la concurrence, si vous regardez par exemple ce qui se passe actuellement avec les brevets, il y a une prolifération de brevets. Si vous voulez développer n'importe quelle technologie, vous avez besoin d'acheter des licences à 36 brevets. Et donc la solution qu'on a trouvée, et qui existait d'ailleurs dans la première moitié du XXe siècle, c'est d'avoir des regroupements de technologies, ce qu'on appelle les patent pools. Et finalement, les théories de Cournot ont été réutilisées, alors raffinées, parce qu'il faut mettre des tas de garde-fous en pratique pour éviter justement des abus, mais ont été utilisées dans les lignes directrices de la Commission européenne de 2004 sur le regroupement de technologies. Donc, juste pour donner quelques exemples, trois choses dans un petit livre anodin qui était vraiment incroyablement moderne. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement en économie, dans beaucoup de domaines, Cournot a été extrêmement moderne.
Merci. Je constate qu'il y a une dynamique très intéressante dans cette assemblée. Les questions sont d'abord venues majoritairement de ma droite, qui précède. Elles sont venues ensuite de ma gauche.
Mais vous aurez une question de centriste après. Ah,
j'allais y venir tout à l'heure. Monsieur Soutou.
Monsieur le Président, je vous remercie. Je ne suis pas absolument certain que ma question entre dans une stratégie de conquête de la gloire. Mais enfin, je suis quand même assez éloigné. Mais les historiens font souvent référence aux chaînes de causalité. Ils citent Cournot, ils ne savent que ça, ils le citent au moins. Bon. Et, pour la raison suivante, c'est que comme on nous demande de développer une histoire de plus en plus totale ou globale, faisant entrer toutes sortes de facteurs économiques, sociaux, psychologiques, on se trouve devant une sorte de d'ensemble très difficile à expliquer, pas facile à décrire, encore plus difficile à expliquer. Alors pour s'en sortir, pour faire des choses brièvement, bien entendu, on se réfère comme paradigme aux chaînes de causalité croisées de Cournot. Alors, je voulais simplement vous demander si cette utilisation de cette notion pour nos travaux d'histoire est légitime du point de vue de Cournot ou pas. Car après vous avoir entendu, je n'en suis pas sûr du tout. J'aimerais que vous m'éclairiez, le cas échéant, que vous soulagiez ma conscience. Chers confrères, je vous remercie.
Merci. Monsieur Braque.
Merci, Monsieur le Président. J'ai deux petites questions qui portent la première sur le deuxième point, la dernière sur le la seconde, pardon, sur le dernier point. Vous avez mentionné les remarques de Cournot à propos des effets de l'action humaine sur la Terre et sur la responsabilité que nous avons envers les générations suivantes. Ah bon, vous avez cité le fameux passage dans lequel nous sommes concessionnaires d'une mine. C'est un thème qui est, qui est présent à l'époque, en particulier chez les gens qui se demandent ce que l'on fera quand il n'y aura plus de charbon. C'est une question qui a trouvé sa voie jusque chez Jules Verne. Parce que dans l'île mystérieuse, Cyrus Smith se demande ce que nous ferons une fois qu'il n'y aura plus de charbon, et répond d'ailleurs par l'idée d'une extraction de l'hydrogène de l'eau de mer. Bon, enfin ça, on peut lui laisser ça. Mais ma question, c'est de savoir à quel moment Cournot a développé cette idée, puisque à l'accoutumée, on date le premier traité systématique sur les effets de l'action humaine sur la Terre de l'œuvre de Marsh, de George Perkins Marsh, 1864. Alors, si c'était avant, la gloire, puisque nous en avons parlé, reviendrait plutôt à la France qu'aux États-Unis. Ma seconde question porte sur la distinction, la question a déjà été posée sous d'autres aspects, distinction entre action ordinaire et action en temps de crise. J'ai essayé de traduire ça en catégories aristotéliciennes, et Aristote dit quelque part dans l'Éthique à Nicomaque que la véritable action, la véritable praxis, est quelque chose qui doit faire attention au moment favorable, au kairos, et qui ne peut s'appuyer sur aucune science, enfin sur techné, enfin sur aucune technique, c'est peut-être la meilleure manière de traduire, et pas non plus sur une quelconque tradition, disons sur un tour de main hérité. Alors ma question est de savoir, est-ce qu'il y a une action ordinaire qui puisse ne pas relever plutôt de la poiesis que de la praxis? En français, y a-t-il une action ordinaire qui ne soit pas simplement production ou reproduction? Je fais là allusion à la distinction de Hannah Arendt entre labor et work. Labor étant bon, le boulot qu'il faut bien faire pour continuer à vivre, et work, bon, la production d'une œuvre, comme par exemple une œuvre d'art, auquel cas d'ailleurs l'objet qui est fabriqué relève plutôt paradoxalement de la praxis que de la poiesis. Donc est-ce qu'il existe une action ordinaire, si je puis dire, une action ordinaire qui mérite le nom d'action, qui ne soit pas simple production?
Merci. Monsieur Levillain.
Oui, cher Bertrand, merci pour cet exposé instructif, brillant et si bien articulé, ce qui est important. Dans la partie centrale, au fond, je dirais, la moelle épinière revient sans arrêt, de façon soit mathématique, soit philosophique, la question du hasard, donc des contingences, des séries causales, de leur coordination, de savoir comment, finalement, l'homme s'articule devant ce qu'est la création. Et je voudrais simplement poser une seule question. Que pensez-vous de cette phrase de Bernanos dans le dialogue d'Irmélite, dans lequel il dit « Au fond, le hasard ou la providence, c'est la logique de Dieu. »
Merci. Madame Delmas-Marty.
Merci, Monsieur le Président. Merci, chers confrères, pour cet exposé très, très éclairant et qui pose très clairement toute une série de questions. Alors, en fait, je souhaitais revenir sur la question, le point 2, que vous avez évoqué, mais plusieurs confrères en ont déjà parlé, la question de l'environnement. Alors, vous avez rappelé, j'ai noté la formule, l'homme dévore la terre. Donc, Cournot, l'un des premiers, est conscient de ce problème qu'on appelle aujourd'hui le problème écologique. Mais ce que je voudrais, c'est rapprocher du point suivant, c'est-à-dire la nature n'est pas saturée. Donc, est-ce que ça ne permet pas de penser que l'homme peut aussi sauver la Terre? Est-ce que la question a été posée ou évoquée ou effleurée par Cournot?
Merci. Alors, les ultimes questions... Ah, pardon. Monsieur...
Larosier. Juste un mot. J'ai beaucoup admiré, mais j'ai surtout goûté votre présentation parce que vous l'avez rendue extraordinairement intéressante et brillante. Je voulais dire, poser une question. Certes, Cournot a joué un rôle décisif dans la modélisation des décisions à partir de comportements rationnel, et ça a ouvert la voie, comme l'a dit Monsieur Tirole, à de nouvelles recherches et à une nouvelle vision de l'économie, à des instruments de recherche qui sont très importants. Mais vous l'avez aussi remarqué, Cournot ne ramène pas l'explication des phénomènes qui s'agrègent autour de décisions à des modèles, parce que il fait place à la psychologie et à l'erreur, qui évidemment introduit un élément perturbateur dans le déroulement des modèles à partir de raisonnements et de positions rationnelles. Alors la question que je voulais poser était la suivante. C'est surtout quand la décision devient politique qu'elle se distance, si je puis dire, du comportement rationnel qu'aime le modèle. Et donc, quand elle entre, cette décision, dans le domaine de la politique, elle sort de la modélisation. Et la question que je me pose, après cette longue introduction, c'est quelle est la position de Cournot sur la démocratie ? Parce que le politique qui peut être irrationnel, comme le montre Cournot, il est élu. Et j'aurais voulu savoir, comme Cournot a traversé beaucoup de régimes politiques différents, quelle était sa position sur la démocratie ? Parce que quand on réfléchit au problème en termes un peu mathématiques, on s'aperçoit qu'à partir d'un certain niveau de complexité dans la vie politique, le fait de voter oui ou non, ou le fait de voter pour A ou pour B, en fait, arrive à des contradictions. Et c'est ça que j'aurais voulu que vous me disiez.
Merci, Monsieur Jean-Claude Trichet. Il y a deux sens.
Oui, il y a deux Jean-Claude. Mais, d'abord, c'était un exposé absolument remarquable et qui me stupéfie d'ailleurs par l'ampleur des sujets abordés, de la modernité des sujets abordés. J'ai trois questions sur l'analogie avec Kuhn, les révolutions, le paradigme shift. Je voulais savoir si dans votre esprit, il y a effectivement une vraie anticipation de ce qui apparaît finalement comme une découverte, enfin une redécouverte assez récente chez Cournot, c'est-à-dire est-ce que le changement de clé est vraiment très proche du paradigme shift de Kuhn. Je suis frappé par le fait que vous utilisez les mots révolution scientifique, en anglais c'est revolutionary science, et c'est ce qui est utilisé par Kuhn dans son livre. On est en présence de la même expression. Deuxièmement, là aussi, je fais écho à ce que M. de Montbrial disait il y a un instant, sur la statistique sa perception de la statistique. Il n'y a pas chez lui, si je comprends bien, en effet, d'écho de Maxwell ou de Boltzmann, ce qui ne m'étonne pas non plus, parce que, si je comprends bien, sa conception du hasard était beaucoup plus profonde, et je voulais vous demander si, dans cette direction, effectivement, il y a une sorte d'anticipation, plus encore que de Poincaré, de la mécanique quantique elle-même. Et puis, troisièmement, ces remarques sur l'évolution darwinienne, dont vous dites qu'elles sont contemporaines à Darwin, ont-elles été anticipées ? Parce que dans la tradition française, j'étais extrêmement frappé de découvrir qu'au XVIIIe siècle, Maupertuis, par exemple, avait très largement anticipé, intellectuellement, naturellement, pas en démontrant l'évolution, mais en termes de description de l'évolution darwinienne, l'avait très largement anticipé. Donc je me demandais s'il n'y avait pas un courant, à vrai dire ignoré des Britanniques, mais qui avait cheminé en français en France. Merci.
Merci. Et enfin, M. Jean-Claude Casanova.
Merci, M. le Président. Je suis, comme tous mes prédécesseurs, très admirateur de l'exposé que vient de nous donner notre confrère. Je voudrais simplement faire deux petites remarques qui sont appelées à mon esprit par les remarques qui ont été faites, trois plus exactement. La première, c'est entendu, il est peu connu, mais quand même, il y a depuis 20 ans une édition des œuvres complètes chez Vrin, que je vous recommande. Cournot existe, enfin, les spécialistes français, ceux qui s'intéressent à la philosophie des sciences, aux mathématiques ou à l'économie, peuvent acheter Cournot et trouver Cournot. Il y a d'autres. Il est mieux édité d'une certaine façon qu'Auguste Comte aujourd'hui. Auguste Comte est très bien édité au XIXe siècle, mais aujourd'hui Cournot est bien édité. Alors, Alain a fait allusion à la phrase d'Aron qui nous a toujours amusés quand nous étions jeunes. C'est un chapitre de l'introduction à la philosophie d'histoire qui commence par « On suppose connu la philosophie de Cournot ». Et ce que Aron veut dire, c'est essentiellement lié à la théorie du hasard. C'est-à-dire le hasard est la rencontre de deux séries indépendantes l'une de l'autre, et ça a évidemment une très très grande importance pour Aron au point de vue de l'interprétation historique et politique. C'est-à-dire que les grands mouvements historiques ou les grands événements ou les événements qui se produisent sont le plus souvent la rencontre de séries différentes. Donc l'interprétation par une causalité unique ou la nécessité historique sont des impossibilités logiques. Et dans la lignée de ça, c'est pour ça qu'Aron, comme d'ailleurs les Anglais, est très admirateur de l'histoire contrefactuelle. C'est-à-dire que, après tout, si la Marne avait été battue, la guerre de 14 se terminait en 1914 et le paysage historique et toute l'histoire du XXe siècle était transformée. Si Churchill, ivre dans les rues de New York dans les années 30, meurt, en 1940, l'Angleterre fait la paix avec le Reich, puisqu'elle n'a fait la guerre qu'à, par trois voies contre deux, et ainsi de suite. Donc, ce probabilisme historique est un peu fondé sur une interprétation à Cournot et domine une partie de la réflexion historique. On le retrouve dans l'historiographie allemande, toute l'idée, si vous voulez, qu'il n'y a pas d'interprétation de la nécessité historique qui vaille. Mais je voudrais dire un mot sur pourquoi Cournot n'est pas très, pas très populaire, n'est pas très aimé. C'est un peu par le fait qu'il est à la fois un scientifique et un littéraire, que les scientifiques ne vont pas vraiment regarder Cournot, sauf les économistes, pour qui il est un grand homme. Les littéraires, Aron voulait qu'il soit obligatoire pour entrer à l'ENA. Mais moi, j'ai jamais rencontré un élève de l'ENA qui ait lu Cournot. Hein, ça, franchement, c'est... Donc, il n'entre pas dans la culture générale aujourd'hui. Il est connu par des amateurs éclairés, mais il n'est dans aucun programme pour aucune étude nécessaire. Et alors, sur ses opinions politiques, M. de la Rosière faisait allusion, je ne suis pas sûr qu'il soit démocrate, vous allez nous le dire, mais moi j'ai un exemple, j'ai étudié, j'ai voulu savoir ce qu'il pensait du libre-échange. Et on voit très exactement quel est son conservatisme. Il est très économiste et donc il sait très exactement ce que c'est que le libre-échange, la division du travail. Très explicitement, il est pour Ricardo, c'est-à-dire qu'il sait que ce sont les prix relatifs et pas simplement l'avantage absolu. Donc il voit très exactement le mécanisme économique du libre-échange. Mais tout de suite après, il dit... Mais si nous faisons le libre-échange, si nous acceptons la mondialisation, il n'y a pas le mot chez lui, mais l'idée est la même, il y aura des secousses politiques, morales et sociales qu'il vaut peut-être mieux éviter. Donc d'une certaine façon, il connaît les lois de l'économie, il voit la perspective économique, mais il donne plus d'importance à la stabilité sociale qu'à l'accroissement de la productivité par tête. Et donc de ce point de vue-là, je crois qu'il faut le classer politiquement parmi les conservateurs.
Merci.
Il n'est pas bonapartiste, il n'admire pas vraiment Napoléon III. Enfin, vous devez...
Merci. Je serai très bref. D'abord, une question hyper anecdotique. Est-ce que on sait quelle est la seule bataille que Gouvion, dont parle Gouvion, et qui a été gagnée selon les plans, non? Dites-moi, je voulais vous poser, donc après vous avoir dit, moi aussi, toute l'admiration que j'ai pour votre intervention, comment est-ce que Cournot se pose le problème suivant? D'un côté, il souligne pratiquement, et pas simplement discursivement, le rôle des sciences positives, de la quantité, etc., pour la connaissance des phénomènes humains. Là, le progrès est d'une certaine manière continu. Mais d'autre part, je crois... et après vous avoir entendu, qui considère aussi que le moment philosophique ou la démarche philosophique, il prend le mot philosophique dans un sens sûrement assez large, aussi dans sa dimension pratique, que le moment philosophique est important dans la connaissance des phénomènes humains. Mais là, ce n'est pas la continuité, c'est généralement l'indécision la critique, le retour en arrière, un progrès qui n'est pas continu. Quelle est la solution, s'il en a une, pour concilier le rythme tellement différent de ces deux facteurs du progrès de la connaissance des phénomènes humains, le progrès continu du quantitatif et la stagnation ou les allers-retours, les régressions, etc., de la démarche philosophique. Merci, mon cher Bertrand. Vous avez 25 minutes et je me réjouis d'être revenu à l'ancien système parce qu'avec la vitalité de nos discussions, le nombre des intervenants nous aurait obligés, ça aurait semblé intéressant de prévoir des séances de 3 heures. Vous avez 25 minutes pour répondre à toutes ces questions importantes et originales.
Pardon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À Alain Besançon, je voudrais dire que, oui, il connaît certainement Saint-Simon, mais il ne faut pas oublier que, à l'époque, on connaît très bien, Cournot connaît très bien les Anglais. Et l'Académie des technologies a été fondée en Angleterre en 1797, l'équivalent, la Royal Institution. Donc, ce qui m'amène d'ailleurs à dire un mot, il a été question des mines. Là, j'ai visité dans cette Académie des technologies, j'ai vu l'invention de Davy pour éviter justement les coups de grisou dans les mines. Et on se rend compte qu'il y a là une invention. Davy est un clergyman qui voit au fond ses paroissiens passer dans l'autre monde assez rapidement. Et il a une idée très simple. Il dit, si on fait une lampe et qu'on l'enveloppe d'un grillage, avec la chaleur, le grisou ne pourra pas rentrer à l'intérieur et il n'y aura pas d'explosion. Et alors, il y a un scientifique, un ingénieur qui a la même idée peu de temps après. Et à ce moment-là, le clergyman se transforme et dit « L'invention de mon concurrent ne vaut absolument rien. » Bon. Alors, il connaît certainement les Saint-Simoniens. Il en parle assez peu. D'autre part, vous disiez sur le côté conservateur. Il dit lui-même, j'ai été conservateur de tempérament, mais je suis révolutionnaire par raison. Et en ce qui concerne, par exemple, l'armée, il partage l'opinion de Gouvion-Saint-Cyr qui avait dit que l'élection des officiers par les hommes était certainement la meilleure méthode. Gouvion-Saint-Cyr, qui était un artiste peintre, qui avait été à Rome et qui ensuite menait une vie d'artiste à Paris, s'est engagé en 1792, à 28 ans. Et il devient général au bout de peu de temps. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il est très embêté parce que les commissaires extraordinaires en mission, Saint-Just et Lebas, on crée un tribunal militaire et on condamne à mort les officiers qui ont eu une défaite à 9 heures du matin. Et ils sont prévenus, ils sont arrêtés à 8 heures du matin, condamnés à mort à 9 heures, exécutés à 10 heures. Alors, il paraît que ça crée des problèmes. Et l'armée du Rhin, d'ailleurs, reste sans commandant jusqu'au moment où on peut convaincre un vieux général qui est le plus ancien, qui s'appelle Meunier, d'accepter le commandement de l'armée du Rhin. Et Gouvion-Saint-Cyr vient lui demander des ordres. Il lui dit « Non, je fais la grève des ordres ». Alors, il est finalement arrêté. Il est emmené en prison. On le transfère à Paris. Pendant la terreur, il reste dans une prison sans se manifester. Et après Thermidor, on lui dit « Vous pouvez sortir ». Et il a ce mot extraordinaire, « Est-ce légal ?» Il s'agit du général Meunier.
Élire les officiers et ses officiers, c'est l'oukase numéro 1 de Lénine.
Oui, oui. Ah bon.
Et
qui a détruit une fois l'armée russe.
Ah oui, mais alors il y a eu une erreur, parce que dans le système qui a été mis en place sous la Révolution, c'était l'ancienneté de service et non pas l'ancienneté du grade qui jouait. Si bien qu'on a vu un sergent qui avait fait la guerre d'Amérique être nommé officier, ça a donné des catastrophes et on a été obligé de modifier quand même le système. Alors, les changements de clé sur Cournot et Kuhn. D'abord, l'idée de révolution scientifique, c'est une, l'expression apparaît au milieu du XVIIIe siècle. C'est donc pas une invention. Et la notion de changement de clé, l'idée qu'il y a des registres différents, ce qui frappe Cournot, c'est au fond le XVIIe siècle où les philosophes importants sont en même temps de grands scientifiques, et le début du XVIIIe siècle, c'est-à-dire les années 1827-1829, où la chimie de synthèse débute. Et à ce moment-là, il pense que si on est capable de reproduire des corps qui existent naturellement, ou même d'en insérer dans la nature qui n'existait pas, à ce moment-là, on a de bonnes raisons de penser que le fait de pouvoir reproduire des choses veut dire que l'idée du positivisme, qui était née, au fond, à la fin du XVIIe siècle chez Malebranche, à travers l'occasionalisme, peut ne pas être la seule conception scientifique valable. Mais Cournot ne pense pas qu'on puisse dire que le nombre de clés successives sera fini, qu'on arrivera au bout, bien sûr. Donc, je crois, moi, enfin, en lisant les deux, Kuhn, d'ailleurs, à la fin de sa vie, revenait lui-même sur sa notion de paradigme et tout ça. Il était beaucoup plus mesuré sur ses propres découvertes. Mais c'est vrai que pendant toute une génération, on a uniquement pensé à Kuhn et pas du tout à Cournot. Et ça continue. Alors, sur certains problèmes que vous avez posés, je suis bien incapable de vous répondre. Ce que je pense, c'est que Cournot a en tête quand même essentiellement le monde historique qui n'est pas encore totalement unifié et où donc il peut y avoir des événements simultanés, mais qui sont indépendants les uns des autres, mais qui le sont ou qui l'ont été pendant longtemps, mais qui vont cesser de l'être à un moment donné. Autrement dit, la notion de causalité vaut dans tous les cas, mais un événement fortuit, c'est un événement qu'on est incapable de produire, mais ce n'est pas du tout un événement qui est sans cause, c'est un événement dont la causalité a plusieurs registres, si vous voulez. Autrement dit, ce n'est pas du tout impensable qu'il y ait du fortuit dans le domaine astronomique, alors que pour Auguste Comte, ça ne paraissait pas du tout pensable. Alors, M. Pitt m'a demandé, Cournot, l'idée d'une mine à exploiter, la différence entre un champ et une mine, ça vient de ce que on célèbre le centenaire. Littré, si vous voulez, avait insister sur le côté agraire, un petit peu comme les physiocrates avant, de l'économie. Et Cournot dit pas du tout, l'agriculture c'est peut-être très important, mais le domaine des mines, de l'exploitation est important. Mais il n'a pas du tout l'idée, en disant concessionnaire d'une planète, ça ne veut pas dire du tout que nous soyons incapables d'en avoir la maîtrise, pas du tout. Dans son esprit, au contraire, il insiste sur le fait que, à partir de la Restauration, il y a des changements très importants qui ont un certain caractère positif. Alors, sur l'intuition, sur C'est un traducteur de Herschel. Or, Herschel a écrit un livre qui s'appelle, j'oublie le titre maintenant, mais qui comporte une théorie de l'induction qui est tout à fait remarquable et très supérieure, je crois, à celle de Popper. Et Cournot pense aussi que les phénomènes d'induction, d'intuition, de coup d'œil sont très importants. Alors, pourquoi Cournot a-t-il choisi normal plutôt que polytechnique ? Je n'en sais strictement rien. Simplement, ce qui s'est pas, il a été à Besançon à 19 ans. Il voulait voir l'inspecteur général de mathématiques qui passait. Puis il n'a pas osé aller le voir et on l'a inscrit, à normal, tout en lui donnant un statut de surveillant. Et il a eu parmi ses élèves quelqu'un qui avait 10 ans de moins que lui, qui était Proudhon, qui était élève au lycée de Besançon. Et il y a une correspondance entre Cournot et Proudhon. Et Proudhon lui dit « Je suis un de vos disciples ». Je ne sais pas. Alors, il y a une conversation très amusante de Poisson qui est examinateur à l'école polytechnique. Et parlant des polytechniciens à l'époque, ça tout a changé, il dit « Ah, s'il pouvait y en avoir au moins un qui aurait le goût des mathématiques et les moyens de continuer à en faire. » Autrement dit, je ne sais pas, il semble que lui voyait Polytech... Enfin, je ne sais pas, il a choisi ce qu'il a... Je ne sais pas du tout. De même, comment est-il arrivé chez le maréchal Gouvion-Saint-Cyr ? Les Normaliens, l'école ayant été fermée en 22, il n'a pas du tout envie de retourner en Haute-Saône. Alors, il reste étudiant, on lui donne un petit pécule. Et puis, finalement, il faut trouver un poste de précepteur. Alors, lui va chez le maréchal Gouvion-Saint-Cyr. Dit Richelet, qu'il admire beaucoup, va chez le général Foy. C'est un usage. Et alors, il devient l'ami de Gouvion-Saint-Cyr. Alors, il raconte des choses très amusantes sur le style de Gouvion-Saint-Cyr. Gouvion-Saint-Cyr écrivait très bien du premier jet. Alors, quand il voulait dire les Allemands, le premier jet, il disait les Allemands. Et puis, il réécrivait, il disait les bons habitants de la Germanie. Alors, Cournot corrigeait tout ça. Ça se passait comme ça. Sur les événements non répétables, et quel est son jugement sur la politique ? Je crois que Cournot, il a dans ses souvenirs, c'est très curieux, ses souvenirs, ils datent 1760-1860. Et alors, il dit, on pourrait croire que c'est vraiment... Lui regrette, au fond, que la France n'ait pas pris le même tournant que les pays de l'Europe du Nord, qu'il n'y ait pas des monarchies constitutionnelles. Je crois que c'est ça, son idée. Il n'est pas conservateur au sens... Il a l'impression qu'on a loupé aussi bien au point de vue universitaire qu'au point de vue politique au XVIe siècle. Que l'Université de Paris a été, au Moyen-Âge, la première université d'Europe et du monde, et que après, au fond, quand elle disparaît, quand elle est supprimée par la Révolution, elle est déjà bien, bien malade. Sur ce que M. Tirole a dit, j'ai eu l'occasion de lui dire que dans un livre que j'avais écrit il y a 16 ans, je citais sa « Game Theory ». Alors, sur l'usage, je crois pouvoir dire à M. Soutou que sur les schèmes de causalité, je crois que Cournot aurait pensé que c'était une utilisation bien laxiste de ce qu'il pensait. Alors, quand Cournot a-t-il développé son idée que l'homme est concessionnaire d'une planète, ou enfin, en tout cas, sur le. Il en parle dans les considérations. Donc, qui sont écrites qui sont terminées en 1868 à peu près. 1868. Alors, est-ce qu'une action ordinaire peut éviter d'être une reproduction? Alors, Cournot dit à un moment donné, je crois que c'est dans les souvenirs, que les actions véritables sont très rares, que très souvent, on répète des choses et que ce ne sont pas vraiment des actions, mais de simples répétitions. Et à ce moment-là, je ne suis pas sûr qu'il aurait donné, qu'il aurait accepté encore d'appeler ça des actions. Alors, le hasard, c'est la logique de Dieu. Cournot est certainement chrétien. On sait que quand il était vieux, il lisait l'Imitation de Jésus-Christ, etc. Mais il se met toujours dans l'idée, quand il parle des démons intelligents, etc., il se met toujours dans l'idée qu'on ne peut raisonner que sur des intelligences qui auraient la même forme que l'intelligence humaine, mais plus complète. Est-ce que, alors, vous avez raison de poser ce problème, parce que quelqu'un qui a lu de très près Cournot et qui le cite beaucoup, qui est Brunschvicg cite énormément, très souvent Cournot, et sur le hasard de Cournot, il a l'impression que ça ne change absolument rien, que le hasard, que en Dieu, justement, il n'y aurait pas de hasard, et par conséquent, on peut considérer que ça peut disparaître. Mais je pense que Cournot, lui, croit vraiment que Dieu lui-même a choisi de mettre une certaine contingence dans les lois de la nature, ce qui est d'ailleurs, il n'est pas le Boutroux dira la même chose. Et en ce qui concerne alors les prédécesseurs de Darwin, vous parliez de Maupertuis, pauvre Maupertuis, quand il est rentré de son voyage dans l'extrême nord, où il avait montré que, comme le disait Newton, la Terre était aplatie au pôle, et quand il est rentré à l'Académie des sciences, on lui a dit « il y a une autre expédition en Amérique du Sud, et on attend les résultats pour voir si vous avez raison ». Mais l'idée d'évolution est dans l'air depuis, certainement même avant Lamarck, si vous voulez, mais il n'y a pas. Et alors, à l'époque où on va redécouvrir Darwin et tout ça, à la fin du 19e siècle, ce qui est très amusant, c'est que l'Académie des sciences est lamarckienne, par patriotisme. Et les darwiniens sont un petit groupe de catholiques qui ont découvert le Darwin, grand naturaliste, et qui disent non, on peut très bien faire. Donc, c'est resté, si vous voulez, très, très conflictuel, au fond. Ce n'est pas... Alors, sur l'environnement, vous posiez la question. Je crois que Cournot, lui, ne pense pas du tout que nous soyons menés ou conduits inévitablement à une sorte de, comment dirais-je, de destruction du monde, pas du tout. Mais il dit il y a un véritable danger, il y a un risque qui n'a pas été aperçu avant, qui, du temps même de Littré, etc., ça n'est pas encore dans le champ. Il a l'impression qu'il y a un risque de destruction et que, par conséquent, une action positive est nécessaire pour le faire. Alors, sur la place de la psychologie chez Cournot, et quel est son sentiment sur les hommes politiques, sur est-ce qu'il n'y ait, comment éviter la contradiction entre ce que des majorités de circonstances peuvent dire. Cournot, là, est assez pessimiste. C'est-à-dire qu'il se dit... Alors, je pense qu'il avait une assez grande confiance dans l'action administrative. C'est-à-dire qu'il pensait que les politiques, s'ils avaient la sagesse de suivre, dans certains cas, les avis de leurs administrations... cela pouvait malgré tout laisser le risque d'errance dans des limites acceptables. Cela dit, il a l'impression que quand on entre dans une maladie comme c'est sur le baccalauréat, par exemple, il est terrible. Il dit, mais il y a un risque de reproduction génération après génération, et souvent des erreurs ne sont pas rattrapables ou difficilement. C'est le cas pour lui, pour les universités, par exemple. Alors, vous m'aviez demandé, Bernard, quelle était la seule bataille qui s'était déroulée. Je l'ignore, je ne sais pas. Alors, comment voit-il la conciliation entre un progrès scientifique et puis ces moments à éclipse de la philosophie? Ben, il pense que c'est effectivement à éclipse. Autrement dit, que la notion de progrès ne vaut probablement pas en politique au même sens que dans les sciences.
Un grand merci, Bertrand, pour cette magnifique intervention. Et puis, ce n'est pas le moindre de vos mérites aussi, la maîtrise du temps qui n'a laissé, vous n'avez laissé aucune place au hasard. Votre discours et la pendule se rencontrent par suite de votre maîtrise. Ça n'est pas du tout une contingence. Je vous en félicite vigoureusement, mais surtout de la très belle conférence qui a fait pénétrer Cournot dans cette académie. Et je crois, mes chers confrères, qu'il va y rester. Alors, bravo, et avant de lever la séance, je rappelle à tous les confrères que nous tenons un comité secret qui me semble assez important dans 5 minutes. Bravo, Bertrand.